fête du travail.
Il y a des défilés dans toutes les villes de France. On en a vu passer un juste devant le temple. Cela rassemble beaucoup de personnes qui s'investissent dans le combat syndical ou de sympathisants. Encore une fois, il y aura des cortèges séparés, car si tous sont d'accord pour défendre la valeur du travail, chacun veut tirer la couverture à soi. Un sondage du journal La Vie donne 82% de jeunes de 20 à 35 ans qui ne font plus confiance à la politique et au syndicalisme, mais préfèrent l'action locale associative. Qu'est-ce qu'un syndicat actif? Et justement, quelqu'un m'a demandé cette semaine, qu'est-ce qu'une église dynamique? J'ai tenté spontanément de répondre à cette question et me suis dit qu'il ne serait peut-être pas inutile d'y réfléchir ensemble ce matin. Et cela m'a évité de méditer encore sur le texte de l'Évangile que je retrouve chaque année, mais vous verrez qu'on y revient quand même. Donc, Actes des Apôtres et l'Église de Jérusalem. Cette Église de Jérusalem, qui se constitue juste après l'événement de la Pentecôte, bien entendu, on ne peut pas faire de cette Église un modèle définitif et normatif. Elle a vite eu, nous le savons, ses défauts, ses jalousies et ses profiteurs. J'avais en tête la question, quels sont les aspects spécifiques d'une communauté composée de personnes bouleversées par le message de l'Évangile? Des gens qui sont sur ce plan bien différents de nous, je parle de l'Église de Jérusalem, nous qui sommes les héritiers de 2000 ans de christianisme, 20 siècles de propagation de l'Évangile et 20 siècles de tensions, de divisions en catholiques, orthodoxes, protestants, évangéliques, et j'en passe. La première Église de Jérusalem a trois caractéristiques principales. Elle est d'abord une église spirituellement forte. C'est la foi qui caractérise d'abord les chrétiens de Jérusalem. Ils se forment, vont aux études bibliques organisées par les apôtres, vont au culte et participent à la scène. Ils vivent dans ce que la Bible appelle la crainte de Dieu. Ce n'est pas la peur, mais un sentiment de telle révérence envers ce Dieu qui les aime, qu'ils essayent de vivre aussi exactement que possible comme ils le demandent. La différence est grande avec nos communautés d'aujourd'hui, la nôtre, mais bien d'autres, évidemment, où peu de personnes vont aux études bibliques, où le culte passe, pour un grand nombre de paroissiens et parfois non des moindres, après le repos ou les diverses activités du week-end. J'ai l'impression, de nos jours, que nous vivons sur les acquis, sur la foi des grands ancêtres, sur une tradition huguenote pour nous, qui à force d'être invoquée, va s'user et risque de mourir. La différence est profonde avec cette première église dans laquelle les membres de la communauté semblent assoiffés, avides de nourrir leur foi et de l'approfondir. Ensuite, l'église de Jérusalem est une église qui partage. C'est sans doute le partage de la foi qui les amène à trouver leur unité dans l'Église. Et c'est cette même foi qui, probablement, les pousse à partager leurs biens matériels. Une idée qui nous semble folle, déplacée, une idée qui dérange même. D'ailleurs, ce partage n'a pas duré longtemps. Vous vous souvenez de l'épisode d'Ananias et de son épouse Saphira. Et toutes les tentatives qui, au cours de l'histoire, ont voulu faire revivre ce partage total, se sont soldées par une catastrophe. Les défilés, dont nous verrons les images, nous montrent que, par-delà des slogans généreux, il y a quelquefois une volonté de défense d'intérêts catégoriels. Il existe beaucoup de gens sans voix. Il aurait impossible, dangereux, de manifester publiquement. Ils sont les oubliés de la société. Les travailleurs pauvres qui dorment dans leur voiture les familles monoparentales, les immigrés, les personnes présentant un handicap. La liste est longue, des moins visibles, et elle n'est pas close. Nous devons nous inspirer de cette toute petite église primitive qui a fini par donner 2 milliards de chrétiens actuels. Nous devons reconnaître nos différences avec les mouvements de masse qui sont la caractéristique de ce 1er mai. L'Église de Jésus-Christ ne manifeste sa force que dans l'humilité et dans le souci du faible. Elle n'est pas dans le bruit, mais dans la louange et l'action de grâce, la prière, nous dit Paul. Elle ne défend pas tant ses intérêts que la fraternité, le partage, ce qu'on a entendu appeler communion fraternelle. Enfin, elle devrait en tout cas, chercher l'unité dans l'Église et avec les autres Églises, plutôt que de chercher l'individualité et le particularisme. Et là aussi, le rapprochement est grand avec notre façon de vivre aujourd'hui dans l'Église. Nous vivons, en Occident en tout cas, chacun pour soi. Nous voyons ici les images des cortèges séparés et clairsemés. Nous ne donnons jamais le montant de nos revenus et nous tenons passionnément à notre indépendance et à notre liberté, au point d'aboutir à un individualisme qui nous ferme aux autres. C'est malheureusement aussi vrai dans nos Savoies qu'ailleurs. L'accueil est cordial, mais l'étranger, c'est-à-dire le Parisien, le Lyonnais, le Ch'ti, vous dira qu'il a rarement été invité à partager un repas. Quant au partage des biens, il suffirait de donner la parole à nos trésoriers pour réaliser combien nous sommes loin de tout mettre en commun. Enfin, cette église de Jérusalem est une église joyeuse. Elle se caractérise par la joie et le mouvement. Une joie simple, qui n'a pas besoin d'artifices, de gadgets. Une joie qui s'exprime dans le culte et la louange. Une joie qui irradie dans la vie quotidienne, puisque Luc note l'allégresse qui règne à la maison. Cette allégresse, sans doute due à la Sainte Cène partagée, on nous dit qu'il rompait le pain, c'est une expression caractéristique, mais aussi la reconnaissance d'avoir de quoi se nourrir chaque jour. Nos réfrigérateurs pleins n'amènent pas une joie plus grande dans nos maisons. Cette église joyeuse communique bien avec la société qui l'entoure, et elle bouge. Chaque jour, dit Luc, en forçant peut-être un peu la note, comme le font nos leaders syndicaux, la communauté s'agrandit de ceux qui trouvent le salut, c'est-à-dire qui trouvent dans l'Évangile et dans la vie de Jésus une intervention et une révélation de l'Éternel qui donne sens à leur vie et une espérance qui ne trompe pas. Voilà ce qu'on peut penser être une église dynamique. Mais je ne voudrais pas que vous pensiez qu'on cherche, en comparant la vie de cette première église avec la nôtre, à provoquer un sentiment de culpabilité. D'abord, parce que vous êtes là, et que s'il y a un regret à exprimer, c'est de voir combien l'absence nous prive du culte et nous prive de la joie de se retrouver. Pour l'Église du Christ, pas de division militaire, comme le disait Staline, plus d'armée, comme le Vatican en possédait autrefois. À l'action militaire, comme on a connu à certaines époques, en Amérique du Sud, préférons la discrète action humanitaire et sociale, les dispensaires pour lépreux, les écoles de brousse ouvertes aux petites filles comme aux garçons. Les armées et leurs drapeaux sont passés, les hôpitaux et les écoles restent. Peut-être parce que l'action sociale est la plus active se passe loin des défilés et des drapeaux. Dans la concertation, dans les bureaux du RSA, dans des assistantes sociales, dans le 115 et les accueils d'urgence. Les églises doivent, à l'intérieur, mais pas seulement, vivre la communion fraternelle. L'entraide est une vraie activité d'église. Vous savez qu'une aumônerie protestante se crée sur Annecy, mais le souci du prochain se manifeste aussi avec les visiteurs de malades ou d'isolés. J'en profite pour vous dire que le CERA accueille et forme les volontaires qui se présenteront. Maintenant, il faut savoir que la société change. Le politique et le social de même. Et nos églises aussi sont amenées à changer. Moins de protestants historiques, beaucoup de nouveaux, de jeunes également, moins de moyens, plus de mise en commun des ministères. Le message de l'Évangile ne change pas. Enseignement, fraction du pain, prière et communion fraternelle sont toujours d'actualité. Mais les modes de fonctionnement sont en train de changer. Ce ne doit pas être un sujet d'inquiétude qui doit inspirer des manifestations de refus, mais une chance pour nos églises, pour l'avenir de l'Église du Christ. Cela bousculera peut-être nos habitudes, mais l'Église continuera à témoigner de sa fidélité à Jésus-Christ. Et comme le dit Luc, si Dieu veut, elle verra s'agrandir le nombre de ses disciples. Aussi pour nous, il n'est pas question de défiler. Il n'est pas plus question de s'isoler de la société, de s'enfermer pour se protéger du monde, premier réflexe des disciples dans la chambre haute. Voyez qu'on revient finalement à l'évangile du jour. Au contraire, Jésus veut nous rassurer, la paix soit avec vous, et nous accompagne au dehors pour témoigner ensemble, aider et écouter, apaiser et soulager, soutenir et défendre. En particulier, c'est l'occasion de rappeler la définition du protestantisme par le pasteur Gounel. Une double protestation pour Dieu contre ce qui le masque, le défigure, et pour l'être humain contre ce qui l'écrase, l'asservit, le détruit. C'est notre manière à nous de réhabiliter la parole, faire connaître la Bible, favoriser la responsabilité individuelle, servir la vie, et développer le dialogue avec les autres. L'histoire est notre richesse, l'Évangile est notre avenir. Si nous savons accueillir toutes celles et tous ceux qui, en nous voyant partager la bonne nouvelle qui donne sens à la vie et espérance, souhaiteront aussi être sauvés du manque de sens et du découragement. Il y a surtout dans cette histoire un projet qui nous concerne tous. C'est la responsabilité de chacun, avec l'aide des sœurs et des frères, de fortifier sa vie de foi, de partager davantage et d'aller de l'avant sans craindre, avec joie et confiance. Car pour qu'une Église soit vivante et active, il est question avant tout de communion fraternelle, c'est-à-dire de partage, mais aussi de rassemblement autour de l'enseignement de l'Évangile, de la fraction du pain et de la prière. Discrétion, certes, mais il est aussi question de joie, cette joie que nous avons désirée et que Dieu seul, en Jésus-Christ, peut nous donner. Amen.